7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 10 mars. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les Européens s'organisent face à la Russie. Indépendance énergétique, renforcement de la défense. Au menu du sommet informel de Versailles cet après-midi, on en parlera à 8h20 avec le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, invité du grand entretien. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard d'Inter vous est ouvert. Les autres titres, Anaïs.
L'OMS inquiète après le bombardement en Ukraine d'un hôpital pédiatrique et d'une maternité à Mariupol qui suscite l'indignation mondiale. Dans ce journal aussi, drogué à son insu par le directeur de l'Institut Montaigne, la victime dénonce une enquête bâclée. Deux tiers des buralistes vendent des cigarettes à des mineurs alors que c'est interdit. Étude dévoilée ce matin par France Inter. Enfin, ils ont goûté hier à la remontada à la sauce madrilène, les footballeurs parisiens éliminés par le Real en 8e de finale de la Ligue des Champions.
Et votre invitée, Léa, à 7h50.
À un mois, jour pour jour du premier tour, elle essaye de faire entendre sa voix, son projet, ses propositions, alors que les Français semblent se désintéresser de cette campagne. La candidate du PS et maire de Paris, Anne Hidalgo, est notre invitée à 7h50.
À tout à l'heure.
Le séisme de la guerre en Ukraine va-t-il créer l'électrochoc de l'Europe de la défense? Avec ce bouleversement géopolitique majeur en toile de fond, les dirigeants des 27 pays de l'Union se retrouvent cet après-midi à Versailles, deux jours de sommet informel pour poser les bases d'une nouvelle boussole stratégique de la sécurité et de la défense européenne et de l'indépendance énergétique. Bertrand Galichet.
Ce sera le sommet du sursaut, dit-on à l'Élysée, qui voit dans cette crise l'opportunité d'affirmer l'indépendance de l'Union européenne à travers un plan de résilience et d'investissement. Des dépenses qui seraient fléchées vers la défense, l'énergie, mais aussi la transition climatique. Le sommet de Versailles devrait permettre de poser les bases de ce projet. Les 27 pourraient se mettre d'accord sur les principes garantissant davantage de souveraineté européenne, en particulier en matière économique. La question immédiate et qui divise porte sur la réduction des importations de gaz et de pétrole en provenance de Russie. Les pays les plus concernés, comme l'Allemagne, freinent l'ardeur de ceux qui veulent sanctionner durement la Russie. Autre sujet sensible, la volonté de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie d'adhérer à l'Union européenne. La France plaide pour un processus par étapes, sans précipitation. Le sommet de Versailles devrait néanmoins adresser un signal politique favorable à ces trois pays.
Autre rendez-vous diplomatique crucial ce matin, Antalya, station balnéaire turque. Première sortie hors de Russie de Sergueï Lavrov. Le chef de la diplomatie russe y rencontre d'ici une demi-heure, une heure, son homologue ukrainien. Première rencontre à ce niveau depuis le début de la guerre, il y a deux semaines tout pile. Dans une ambiance sans doute tendue, le directeur de l'AIEA sera là aussi et le président turc en médiateur s'entretiendra au téléphone avec Joe Biden dans l'après-midi. Car sur le terrain, encore un cap franchi avec le bombardement hier d'un hôpital pédiatrique et d'une maternité à Mariupol. 17 adultes blessés dans une ville asphyxiée. Les 9 jours de siège ont déjà fait plus de 1200 morts selon la mairie. C'est donc une réalité, comme en Syrie. L'armée russe n'hésite pas à viser les hôpitaux. L'Organisation mondiale de la santé s'en inquiète et prévient que le système de santé ukrainien est au bord de l'implosion. À Genève, Jérémy Lanche.
Avant le bombardement de Mariupol, l'OMS recensait 18 attaques contre des hôpitaux ou du personnel de santé depuis le début de l'invasion russe. Environ un millier de centres de soins sont aujourd'hui sur la ligne de front ou à moins de 10 km des combats. Pour le patron des opérations d'urgence à l'OMS, Mike Ryan, la guerre a déjà englouti tout le système de santé du pays.
Des hôpitaux sont abandonnés parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner. Envoyer du matériel médical, c'est très bien, mais ces hôpitaux ont aussi besoin de courant, d'eau et d'essence pour faire tourner les générateurs. La situation sanitaire ne va faire qu'empirer tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu et de paix.
La guerre risque également d'agir comme un catalyseur pour bon nombre de maladies infectieuses. On pense au Covid, mais aussi à la polio qui venait de refaire surface en Ukraine.
Quand vous avez des hommes, des femmes, des enfants entassés dans des sous-sols qui n'ont pas de quoi manger, qui ne dorment pas, vos défenses immunitaires sont au plus bas. Dans ces conditions, les maladies infectieuses peuvent faire des ravages.
Les réfugiés sont aussi victimes de l'effondrement du système de santé, avec la rupture dans le suivi des maladies chroniques et des cancers et la multiplication multiplication des cas d'hypothermie sur les routes de l'exil. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Les routes de l'exil empruntées par plus de 2 millions de personnes et il y a celles qui sont incapables de fuir, les 7 millions de personnes âgées et les près de 3 millions de handicapés en Ukraine qui sont à haut risque et ont besoin d'être protégés, disent les associations humanitaires. Sur place, des personnalités se mobilisent. C'est le cas à Kiev du nonce apostolique. Le Vatican possède l'un des réseaux diplomatiques les plus étendus au monde et Boris Loumagne a rencontré son ambassadeur en Ukraine.
Contrairement à la plupart des ambassadeurs, Monseigneur Visvaldas Kulbokas a décidé de rester à Kiev, au rez-de-chaussée de sa résidence, quelques matelas au sol.
Donc nous dormons là. C'est un peu dangereux de monter dans nos chambres. Et ici, vous voyez, nous sommes protégés, il n'y a pas de fenêtres. Nous prions dans la cuisine ou bien au sous-sol.
Et quand il ne prie pas, le nonce passe beaucoup de temps au téléphone. En ce moment, il essaie d'aider une cinquantaine d'enfants coincés dans un orphelinat d'une ville assiégée.
Moi, je demandais à mes supérieurs de Saint-Siège de voir directement avec la Fédération russe est-ce qu'on peut recevoir des garanties pour protéger ces enfants. Donc, c'est très urgent.
Le nonce s'attache également à rassembler les communautés religieuses. Il organise notamment un conseil des religions pour coordonner l'aide humanitaire.
Les orthodoxes, les musulmans, les juifs, les protestants, les grecs catholiques, les romains catholiques, il y a, je crois, 18 confessions et religions représentées. L'unité est très forte, la solidarité est très grande, donc c'est déjà une conséquence très belle. De la guerre.
Travailler au dialogue entre les religions, c'est aussi préparer l'après-guerre, nous dit le nonce. Mais nous n'en sommes pas encore là.
Boris Loumagne et Laurent Macchietti, nos envoyés spéciaux à Kiev. Hier, 35 000 personnes ont pu évacuer la ville de Soumy et des localités proches de Kiev par les couloirs humanitaires. Cette nuit à Washington, la Chambre des représentants a ouvert le robinet des dollars pour l'Ukraine. 14 milliards votés pour l'aide humanitaire, l'aide militaire, l'aide économique aussi, en soutien aux banques et au fonctionnement du pays. Hier, sur les marchés, les cours du pétrole ont plongé moins 13% pour le Brent de la mer du Nord. Les investisseurs encouragent par l'ouverture diplomatique et l'augmentation de la production évoquée par les Émirats Arabes Unis.
Il est 7h07, bien loin de s'apaiser. La colère monte d'un cran en Corse.
Une semaine après l'agression d'Ivan Colonna, échauffourée jusqu'à minuit hier à Ajaccio, des manifestants dans le palais de justice, départ de feu dans le hall du tribunal Précision dans le journal de 7h30. Il comparaît ce matin devant le tribunal judiciaire de Paris, Laurent Bigorgne, proche du président de la République, directeur de l'Institut Montaigne, poursuivi pour avoir glissé un cocktail de drogue dans la coupe de champagne d'une de ses collaboratrices qu'il avait invitée chez lui, à son insu, bien sûr. La victime, Emmanuel Leclerc, dénonce une enquête volontairement bâclée.
Pourquoi mettons de la drogue dans le verre d'une femme si ce n'est parce qu'on a envie d'abuser d'elle et de la violer? C'est l'argument que Sophie Conrad, la plaignante, et son avocat Arié Halimi devraient mettre en avant ce matin pour réclamer l'annulation de ce procès. Il demande la désignation d'un juge d'instruction indépendant. Il dénonce surtout une enquête étrangement expéditive, 90 heures chrono et lacunaire, alors que le parquet de Paris n'a pas retenu justement le caractère sexuel de cette affaire. Les enquêteurs ont pourtant retrouvé plusieurs SMS éloquents envoyés par Laurent Bigorgne dans les jours qui ont précédé les faits. Durant sa garde à vue, il a reconnu avoir mis de l'ecstasy dans la coupe de champagne de Sophie Conrad. Mais c'était surtout, selon lui, pour améliorer la qualité de leur discussion à venir, lui-même étant sous cocaïne. Ce qui est certain, au niveau de la procédure, c'est que factuellement, il n'y a pas eu d'agression, puisque Sophie Conrad a pris un taxi très rapidement pour rentrer chez elle et aller ensuite à l'hôpital, où les analyses ont rapidement révélé des traces de drogue dans son sang.
Et selon nos confrères de France Info, Sophie Conrad a déposé plainte hier contre le directeur de la police judiciaire et la procureure pour falsification de l'enquête.
Et de moins en moins de patients Covid à l'hôpital.
Mais des contaminations toujours en hausse. Malgré tout, le port du masque ne sera plus obligatoire lundi. Les EHPAD font toutefois exception. Les familles de résidents viennent d'envoyer une lettre ouverte au président pour demander la levée ou au moins la modification du pouvoir de police dans les maisons de retraite. Écoutez Patrick Collardeau, président de l'association Touche pas mes vieux, avec Yann Gallic.
On ne comprend pas pourquoi dans les EHPAD, où quasiment tous les résidents ont eu les trois doses de vaccination, le personnel est vacciné et très souvent plus que la majorité des familles sont vaccinées, pourquoi il faudrait encore avoir un pass sanitaire et en plus porter un masque. On a l'impression que dans les EHPAD, on n'est pas dans le droit commun. Une direction d'EHPAD peut, de façon donc arbitraire, décider de mesures collectives de privation de liberté des résidents Il faut que les familles puissent venir en gros de 10h du matin jusqu'à 20h, puisqu'en fait dans certains EHPAD, depuis la crise du coronavirus, maintenant les visites sont autorisées de 14h à 17h.
Les EHPAD et le vieillissement, on en parle dans le 13-14 sur Inter, en direct aujourd'hui depuis une résidence autonomie à Saint-Marcellin-en-Forêt dans la Loire. France Inter qui vous révèle ce matin cette étude du Comité national contre le tabagisme. Alors que la vente de cigarettes est interdite aux mineurs depuis plus de 13 ans, les deux tiers des buralistes acceptent toujours d'en vendre au moins de 18 ans sans être trop regardant, Hélène Chevalier.
Parmi les quatre lycéennes qui discutent à quelques mètres de leur établissement, Raphaël est la seule fumeuse.
J'ai diminué un paquet par semaine.
Un paquet qu'elle se procure sans aucun problème. Malgré ses 15 ans, les buralistes ne lui demandent jamais sa carte d'identité.
Non, ça arrivait peut-être une fois, mais j'ai juste dit que j'avais 18 ans, ils m'ont accepté quand même.
Menée auprès de 400 débits de tabac, l'étude montre que 64% d'entre eux ont vendu un paquet de cigarettes à un mineur de 17 ans, un pourcentage qui monte même à 77% dans les villes de plus de 15 000 habitants.
Le tiroir caisse prédomine sur la santé des enfants en France.
Président du Comité national contre le tabagisme, le professeur Yves Martinet s'agace de voir que depuis des années, rien ne bouge.
Lorsqu'on indique que certains buralistes ne respectent pas la loi, en fait, il n'y a pas de sanctions. Et les sanctions prévues par la loi sont extrêmement minimes. Donc en fait, ça n'intervient pas du tout sur l'intérêt des buralistes par rapport à leurs revenus.
Il faudrait selon lui plus de contrôle et une amende bien plus importante que les 135 euros actuels. La Confédération des buralistes de France reconnaît que ses 23 000 membres ne sont pas tous exemplaires malgré ses efforts de sensibilisation mis en place ces dernières années.
Et les détails de cette étude, c'est aussi sur franceinter.fr. Ils avaient le match en main, mais c'était sans compter sur Karim Benzema, auteur d'un triplé en seconde période. Et voilà les joueurs du PSG qui sombrent piteusement hier soir contre le Real. Benzema 3, Mbappé 1. Le Real se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions de football. Devant des supporters parisiens forcément dépités, Cédric Guillou.
Tête basse et visage fermé. Voilà comment Nicolas, supporter du PSG, a quitté le stade Santiago Bernabéu hier soir.
On est un peu sous le choc. C'est quand même un match duquel on attendait beaucoup de choses. On avait besoin de résultats, on avait besoin de choses qui nous prouvaient qu'on pouvait reprendre un abonnement l'année prochaine. Je pense que ce ne sera pas le cas parce que ça a été vraiment difficile. On a pris un petit chaos ce soir quand même.
Du dégoût et de la colère aussi dans ce bar du 11e arrondissement de Paris. Un repère d'abonnés où Kiki, le patron, ne digérait pas cette nouvelle humiliation pour son club en Ligue des Champions.
On est tous dégoûtés, dépités parce que là-dessus c'est un match qu'on doit gagner 10 fois. Sur une erreur, on n'est pas capable de se remettre en cause. C'est pas normal qu'une équipe comme Paris se trouve comme ça à chaque fois, chaque année, se faire sortir en 8e, en quart, et dire ouais, on verra l'année prochaine. Non, c'est fini l'année prochaine, c'est trop.
Et pour Eric, très énervé en sortant de Bernabéu, c'est maintenant l'heure de faire des choix.
Neymar, qui dégage, Messi, qu'il aille à la retraite. Qu'on fasse confiance aux jeunes, ça nous coûtera moins cher et on se fera plaisir et peut-être qu'on gagnera avec des champions.
Comme pour les joueurs et le staff technique du PSG, la fin de saison des supporters parisiens va sembler bien longue.
Cédric Guillou et puis qualification hier aussi de Manchester City face au Sporting.
Merci Anaïs Feuga, le zoom dans 3 minutes aujourd'hui à Odessa qui craint le débarquement des troupes russes sur ses plans.